Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut à tous, bienvenue dans le 35e épisode de Fun for you. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour votre rendez-vous dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime. Fun Radio. Et mon invité du jour s'appelle Mac Lesgui. Bonjour Mac.
Bonjour Simon.
Quel plaisir de te recevoir ici sur Fun Radio. J'espère que tout va bien.
Merci, mais oui, tout à fait.
Alors, tu viens nous parler de ton livre Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire, qui est sorti aux éditions du Rocher. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un visage emblématique de la science à la télévision en France. Tu as participé à de nombreuses émissions de TV en tant que chroniqueur et tu es à la tête également de l'émission E égale M6 depuis 35 ans sur oui. M6. Il te vient d'où ce goût pour la science?
Ah, je crois que j'ai toujours été curieux. Mes plus vieux souvenirs scientifiques remontent à mes premières leçons de choses quand j'étais en 6e, donc ouais. Quand j'avais 10 ans, j'entre au collège. Et j'ai toujours aimé la science, j'ai toujours aimé la découverte. Et là, je fais le plus beau métier du monde puisque toutes les semaines dans E égale M6, je découvre un univers nouveau autour de la science, bien sûr.
Alors toi, tu es ingénieur de formation. Comment oui. Est-ce que tu t'es retrouvé à la télévision? Parce que c'est un parcours un peu insolite.
C'est un parcours assez insolite. Alors, j'ai une formation d'ingénieur, tu l'as dit. Je n'ai pas de formation de journaliste. Mais un jour, alors que j'avais un métier très sérieux, je travaillais dans les études de marché et le marketing pour des produits agroalimentaires, un copain, ingénieur comme moi, m'a dit « Tu vas m'aider à faire un pilote d'émissions scientifiques. On va les vendre à une chaîne française qui s'appelle M6. » Parce que à l'époque, il n'y a pas d'émissions scientifiques régulières à la télévision française. J'ai dit, écoute, j'y connais rien, on n'y connaît rien, on n'est pas journaliste. Il dit, fais-moi confiance, ça va marcher. Et en plus, parce qu'à l'époque, j'avais des grosses lunettes zébrées, avec des lunettes zébrées, c'est toi qui vas faire le présentateur. Il est allé au culot, M6 a dit banco, on a signé pour 6 numéros en 91. Je me suis dit, ça va me faire un peu des vacances ludiques et intéressantes, avant de revenir à un métier tout à fait sérieux. Je ne m'attendais pas du tout à ce que M6, après 6 mois, nous re-signe pour une nouvelle saison, et ainsi de suite, et ça fait 35 ans que ça dure.
Qu'est-ce qui explique la longévité de cette émission, selon toi?
D'abord, la fidélité des dirigeants de M6 à notre rencontre, ça c'est quand même très important. Deuxièmement, l'intérêt du public, parce que le grand public s'intéresse à la science pourvu que ce soit pas une prise de tête. Ouais. Et notre motto a toujours été de dire, on doit plaire au grand public sans déplaire aux scientifiques. Et puis on aime bien aussi raconter les choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Il y a peut-être une touche d'humour qui aide à emballer la chose.
Alors tu parlais tout à l'heure de tes lunettes. Tu as dit dans une interview pour Paris Match, il y a déjà de ça quelques années, que ces lunettes, elles ont changé ta vie. Raconte-nous un peu l'histoire de ces lunettes.
Oui, à l'époque, je me souviens, je devais avoir 25 ou 26 ans. J'avais des lunettes en écaille tout à fait classiques, ouais. Comme tout ingénieur myope que j'étais et que je suis toujours. Et je suis tombé en arrêt dans une rue de Paris devant une paire de lunettes énormes, avec une monture en plastique, des lunettes zébrées. Je me suis dit, elles sont trop belles, je ne peux pas les acheter. Évidemment, je ne peux pas ne pas les acheter. Évidemment, je ne les mettrai jamais pour aller au boulot. Je les mettrai pour rigoler entre copains. Et un jour, je les ai amenés au boulot. Et les patrons m'ont dit, c'est rigolo, mais quand on ira voir des clients, tu ne les mettras pas. J'ai dit, non, bien sûr, rassurez-vous. C'est juste pour aller au bureau. Puis un jour, je les ai amenés chez les clients. Et les clients y ont pris goût, à tel point que ma notoriété dans mon premier travail a été un peu boostée par ces lunettes. Et c'est à tel point que quand j'ai présenté on avait fait un numéro zéro, un pilote, ouais. Comme on dit, pour présenter à la chaîne M6, j'ai dit au dirigeant M6, il dit bien sûr, si vous me gardez comme présentateur, je peux enlever ces lunettes. Non, m'ont-ils dit, elles sont très bien. Elles ont évidemment contribué au succès de l'émission. Voilà, les gens se sont dit, tiens, un ingénieur qui est un peu original pour présenter une émission. Alors je les ai gardées ensuite quelques années avant de revenir à des lunettes plus sérieuses, mais déjà le pli et la notoriété étaient pris.
Alors dans ton dernier livre, tu malmènes les idées reçues pour nous apporter, grâce à la science, les meilleures réponses possibles, détox, sommeil, alimentation, climat, tout y passe. On est dans un monde aujourd'hui où une vidéo TikTok de 30 secondes peut convaincre plus qu'une étude scientifique. Est-ce que ton livre, il arrive un peu comme une nécessité dans ce monde ?
Oui, je le pense, effectivement, parce que tu as raison de le dire, une vidéo TikTok, une opinion sur TikTok ne vaut pas 30 ans d'études scientifiques fait par des études internationales, des équipes internationales, et publié dans des revues scientifiques. Donc, il y a en ce moment une prolifération, en France notamment, je crois un petit peu en Belgique aussi, de fake news, de désinformation. Les opinions, les croyances prennent le pas sur les faits, et notamment sur les faits démontrés de manière scientifique. Parce que la science n'a pas à se mêler de tout, la science n'a pas réponse à tout, mais quand la science s'empare d'un problème, elle apporte, à mon avis, les meilleures informations sur le problème et les meilleures réponses réponse qu'on peut y apporter. Et j'ai trouvé que quand mon éditeur, les éditions du Rocher, m'ont proposé d'écrire ce livre, j'ai trouvé que c'était vraiment nécessaire et je l'ai fait avec beaucoup de jubilation. Un peu comme au tir au pigeon, en voyant toutes les fake news qui passent et en les analysant, en les décryptant à l'aide de la science et des publications scientifiques.
Est-ce que les réseaux sociaux peuvent devenir aujourd'hui un danger pour la santé publique?
Oui, parce que autrefois, quand j'ai démarré l'émission, la parole scientifique était vulgarisée, filtrée par les médias, qui faisaient de la vulgarisation de bonne qualité. Aujourd'hui, tout ça est court-circuité, tu le sais, par les réseaux sociaux, par TikTok que tu citais, par X, par Instagram, YouTube, tout ce qu'on veut. N'importe qui, pourvu qu'il ait du bagou, de la tchatche, un peu de charisme, peut convaincre beaucoup de monde. Alors, ça peut être très très bien, il y a de l'excellente vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, ça peut être épouvantable. Il y a beaucoup de charlatans qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, et la parole scientifique finit par être un petit peu diluée, et les gens se disent, c'est une opinion comme une autre. Non, ce n'est pas une opinion. Moi, je crois en la démarche scientifique, je pense que pour résoudre les problèmes du monde, en médecine, en santé, en alimentation, en énergie, la démarche scientifique est la meilleure, et c'est ce que j'explique dans ce livre.
On parlait tout à l'heure de l'émission E=M6, en plus de contrer un peu les réseaux sociaux, comme on en parlait. Est-ce que ce livre, c'est un peu la suite logique de cette émission?
Oui, exactement. Dans E=M6, tous les dimanches soirs, à 20h40, on fait de la vulgarisation scientifique de base, avec des physiciens, avec des chimistes, des biologistes, etc. C'est une émission qui s'adresse à toute la famille, les parents et les enfants, qui en général la regardent ensemble. C'est la dernière émission en France que le dimanche soir, les enfants ont le droit de regarder avant d'aller se coucher. Ça termine à 9h. À 9h au lit, ensuite les parents regardent ceux qui veulent. Alors, évidemment, ça permet de brasser beaucoup de thèmes très, très quotidiens et très intéressants, de faire de la bonne vulgarisation. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur des thèmes un peu plus adultes. C'est pour ça que je parle d'énergie. Je parle aussi de la place de la science, de la différence qu'il peut y avoir entre le danger et le risque. On dit qu'il faut une science indépendante. Je dis ce que je pense sur la science indépendante. Je parle de la balance bénéfice-risque à l'aune de laquelle il faut, à mon avis, juger toute technologie. Donc, ça reste très accessible. Moi, je suis un vulgarisateur. Je suis pas un scientifique. Je suis un vulgarisateur de la science, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur les thèmes plus adultes.
Parmi les thèmes développés, le climat, la santé aussi, par exemple les légumes en boîte, surgelés ou frais. On aurait tendance à penser que les seuls qui sont bons pour la santé, ce sont les légumes frais, et pourtant, la science dit plus ou moins le contraire.
Et oui, c'est un peu le mythe du frais, du naturel, entre guillemets. En fait, qu'est-ce que c'est que des légumes? C'est une somme d'éléments minéraux, de sucre, de vitamines, de fibres. Tout ça, ça va plus ou moins se conserver selon les différents modes de conservation et de préparation. Et on s'aperçoit qu'au bout du bout, entre des légumes frais, des légumes surgelés ou des légumes en conserve, tant que c'est pas mélangé avec d'autres choses, il n'y a pas une grande différence. Les conserves et le surgelé, ça permet de manger hors saison des légumes qu'on va ne récolter en été et d'en avoir toute l'année. Il ne faut pas s'en priver. Mieux vaut manger, par exemple, en plein hiver, des haricots verts qui ont été surgelés, même s'ils datent de l'été précédent, plutôt que les faire venir en avion du Kenya ou du Pérou, ce qu'on voit aujourd'hui sur nos étals.
Et les légumes bio dans tout ça, la science a tranché aussi?
Alors la science a tranché, la dernière grande méta-analyse, c'est-à-dire vraiment la grande recherche faite sur le sujet, est menée notamment au King's College à Londres, a été publiée l'année dernière. Il n'y a, pour notre santé, aucune différence entre manger des aliments bio et manger des aliments non bio. Ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que pour un peu moins cher, on serait un peu condamné à s'empoisonner. Ça n'est pas le cas. Il n'y a absolument aucune différence pour la santé. Alors, on peut acheter bio pour tout un tas d'excellentes raisons, sur lesquelles je reviens d'ailleurs également dans le livre. Mais si on croit faire du bien à sa santé en achetant plus cher des fruits et légumes bio par rapport à des fruits et légumes conventionnels, on se trompe. L'important, l'essentiel, c'est de manger des fruits, des légumes, 5 portions par jour, qu'ils soient bio ou qu'ils ne soient pas bio.
On voit aussi, on parlait des réseaux sociaux il y a quelques minutes, pas mal d'influenceurs qui font la promo de cures, de détox.
Oui.
Là aussi, la science a tranché et là aussi, il faut faire attention à ce qu'on entend et à ce qu'on peut lire.
La science a tranché, grande méta-analyse, là encore, faite par des Australiens qui ont passé vraiment toutes les études sur les différents produits détox au crible de la science. Alors, tous ces aliments, tous ces boissons concourent à notre santé, évidemment, mais comme n'importe quel autre aliment, aucun, absolument aucun ou aucune, n'a de vertu détox particulière. En fait, qu'est-ce qui se charge de la détox de notre corps? Ce sont nos deux reins et notre foie. Ils font très bien le travail tout seuls. Il faut éviter de leur donner trop de poison, comme par exemple de l'alcool. Il faut éviter le grignotage qui les fatigue. Mais si on veut faire du bien à ces organismes, le seul produit que je peux recommander, c'est un peu déceptif, c'est de boire de l'eau. Parce que l'eau, sert à faire tourner le système, hein, un peu comme à chaque fois que vous tirez la chasse, bah, vous débouchez les canalisations. L'eau a la même vertu, et pas la peine d'aller chercher de l'eau minérale ou de l'eau de source ou n'importe quoi, l'eau du robinet convient très bien.
Un autre sujet important que tu abordes également dans ce livre, c'est le sommeil. Alors, il y a une étude qui a été menée en Belgique. Un Belge sur quatre estime manquer de sommeil. On entend souvent d'ailleurs dire que le manque de sommeil fait grossir. Là aussi, la science a tranché.
La science a parfaitement tranché. Alors, elle l'a tranché à la fois pour des études chez l'homme, avec des études chez l'homme, et avec donc des cobayes, et aussi avec des études sur les rats. Parce que oui, Simon, il y a des scientifiques qui vont priver les rats de sommeil pour voir ce qui se passe. Alors, chez les rats privés de sommeil, on a démontré que ça perturbait une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, où on a un petit peu notre horloge biologique.
Ouais.
Chez l'homme, on a également démontré par des prélèvements sanguins que notre appétit, notre satiété, sont gouvernés par deux hormones qui s'appellent la leptine, hormone de la satiété, et la ghréline, c'est l'hormone qui nous donne faim. Moins vous dormez, plus vous diminuez la production de leptine, hormone de la satiété, et plus vous augmentez la production de ghréline, l'hormone qui donne faim. Voilà pourquoi, plus on manque de sommeil, plus on a faim. S'ajoute à ça le fait que plus on manque de sommeil, souvent on se réveille au milieu de la nuit, on est tenté d'aller ouvrir la porte du frigo pour manger quelque chose. Et toutes les études comportementales montrent qu'effectivement, chez les personnes en manque de sommeil, on observe une prise de poids plus courante, plus régulière, plus fréquente que chez les personnes qui dorment au minimum, on va dire, entre 7 et 8 heures par nuit.
Comment tu as sélectionné les différentes études pour écrire ce livre ?
Alors, la sélection des études, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir que une seule étude, comme une hirondelle ne fait pas le printemps, une seule étude ne fait pas le printemps scientifique non plus. Il faut qu'il y ait plusieurs études qui soient récurrentes. Il faut qu'il y ait enfin des méta-analyses. Il faut bien comprendre ce que c'est que la science moderne. C'est un édifice qui se construit avec des briques qui viennent de tous les pays du monde, puisque tout est publié dans de grandes revues comme Nature, comme Cell, ouais. Comme PLOS ou PNAS. Et ces études permettent de faire ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est une équipe de chercheurs qui prend, on va dire, par exemple, les 41 études qu'il y a sur le sujet, qui va toutes les lire, qui va confronter tous les résultats et qui va sortir donc un résultat en quelque sorte consolidé à partir de ces 40 études. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse.
Ouais.
C'est là que va commencer à naître ce qu'on appelle le consensus scientifique, c'est-à-dire un consensus scientifique, c'est une notion sur laquelle à peu près tous les scientifiques spécialistes du sujet sont d'accord. Là, ça commence à être sérieux. Voilà. Et bien évidemment, je me suis surtout basé sur ces méta-analyses pour écrire le bouquin.
Si tu devais retenir une seule des idées reçues que tu expliques dans ce livre, pour essayer de la faire sortir de la tête de monsieur et madame tout le monde, ce serait laquelle ?
Alors, je crois que c'est un peu d'actualité en Belgique. L'idée que je voudrais, que je retiendrai, alors il y en a 40, hein. Mais j'aimerais bien dire que souvent on dit que les déchets nucléaires, du nucléaire civil, ouais. J'entends pas du nucléaire militaire, sont un problème qui met en cause la viabilité de la filière nucléaire. Voilà. Ces déchets ne sont pas un problème. On sait, un, les gérer, on sait, deux, les enfouir, et si on veut pas les enfouir, on peut tout à fait, dans un futur proche, les incinérer, les brûler dans des réacteurs à neutrons rapides qu'on appelle encore des surgénérateurs. Donc arrêtons de diaboliser la filière nucléaire au motif que on ne saurait pas quoi faire des déchets nucléaires. Je le dis parce que je suis très attaché au nucléaire, qui reste une des meilleures réponses à ce jour que nous avons pour diminuer l'empreinte carbone de notre énergie. Et ça, c'est un enjeu qui est planétaire, puisque le réchauffement climatique est là. Alors, il va un petit peu moins vite que ce que craignaient les chercheurs, mais enfin, il est bien là. Il va continuer. Et il faut non seulement que nous nous y adaptions, mais il faut également lutter contre nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, le nucléaire est un des outils dont nous aurons tort de nous priver.
Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. C'est le nom de ce livre que tu as sorti aux éditions du Rocher. Merci en tout cas, Mac Lesley, d'être venu nous voir ici sur Fun Radio. C'est un réel plaisir.
Plaisir partagé.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.